Merci Seigneur, merci mon Dieu parce que tu nous permets de nous réunir chaque dimanche, alors que dans d'autres pays, dans d'autres régions, c'est impossible. Et nous sommes là Seigneur pour t'honorer, pour te glorifier, pour te louer. Merci mon Dieu. Je vois que l'on est peu nombreux, moins nombreux que d'habitude, et je pense que c'est parce que il n'y a plus les distances à respecter. On peut se déplacer, donc je pense que des frères et sœurs sont allés voir leur famille et je voudrais les bénir, que dans les lieux où ils sont, où qu'ils soient, Seigneur, tu sois présent et qu'ils soient des témoignages pour ceux qui ne te connaissent pas. Je voudrais te remettre aussi nos frères et sœurs qui sont souffrants. Oui, Seigneur, ils savent que nous sommes réunis, que nous te louons, que nous t'adorons. Et Seigneur, tu es avec eux. Tu es avec eux et Seigneur, tu leur apportes le réconfort. J'ai bien aimé le témoignage de notre sœur, nous prouvant que notre Seigneur est le Dieu de la dernière minute, du dernier instant, celui qui, à tout moment, peut intervenir. Et j'ai cette pensée de Jésus sur la croix, quand le brigand, l'un des deux brigands s'est tourné vers lui, c'était dans les dernières minutes, et il lui a dit, tu es pardonné, tu es sauvé. Donc c'est vraiment le Dieu de la dernière minute, du dernier instant. Je disais tout à l'heure, j'ai bien aimé le témoignage de notre sœur, et je voudrais refaire ce qu'a dit Vincent il y a déjà quelques semaines. Il y a une urne qui est ici. Vous pouvez écrire vos demandes de prière sur un papier. Vincent n'en prend pas connaissance. En fait, on ne regarde pas ce que vous avez écrit. C'est un dialogue entre vous et le Seigneur. Par contre, à la réunion de prière, on prie pour ce que vous avez écrit. Et je tiens à rappeler cela parce que c'est souvent vide, mais moi j'ai eu recours à cette urne. J'ai écrit des demandes de prière. Je sais que après les réunions de prière, ces inscriptions, ces demandes sont détruites. Et c'est vraiment un lien personnel que vous aurez avec le Seigneur par l'intermédiaire des intercessions de nos frères et sœurs des réunions de prière. Donc je voulais vous dire ça, vous partager ça, parce que je pense que c'est important. Souvent on garde des choses pour nous, on ne sait pas comment les exprimer. Et c'est vrai que lorsque deux ou trois s'unissent pour demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur répond. Donc c'est vrai que des fois on a tendance à dire, moi je vais demander tout seul, je vais me mettre dans ma chambre, m'isoler, je vais demander. Mais quand on est plusieurs, c'est plus actif. Donc n'oubliez pas cela. Je sais que ça peut être difficile de le demander. L'écrire, c'est plus facile. Et c'est personnel, on n'en prend pas connaissance. Personne n'en prend connaissance, je vous l'assure. Bon, ce n'était pas le sujet du message. Comme ça. Ah, pardon. J'ai du mal avec le micro. Je suis désolé. Donc, il faut que je le tienne bien. Comme si c'était une glace, en fait. Voilà. Bon, la semaine dernière, Lionel nous a fait part d'un message. Et moi, il y a des phrases. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a plusieurs phrases qui sont revenues régulièrement dans son message. Et moi, ça m'a touché, ça m'a interpellé, comme souvent d'ailleurs. Et cette phrase, vous en avez remarqué une, vous, qui vous a interpellé? Est-ce qu'il y a une phrase? Je crois qu'il l'a prononcée 5 fois, cette phrase, si je ne me trompe pas. Non, ça ne vous dit rien, il n'y a rien. Lionel a dit, Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Il l'a répété. Alors je vais vous confirmer. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard. Non, non, pas du tout. Il y a une raison. Déjà, on a été choisi. Mais en fait, on est tous choisis par le Seigneur parce qu'il n'abandonne personne. Mais beaucoup de personnes qui ne l'ont pas rencontré pensent qu'ils sont isolés, surtout dans les temps que l'on vit actuellement. Alors, quand Lionel a prononcé cette phrase, qu'il l'a répétée, comme je le dis régulièrement, moi, quand j'ai un message, quand quelque chose me vient, j'ai toujours la crainte de me dire, est-ce que c'est moi qui pense ça ? Ou est-ce que le Seigneur m'envoie ce message ? Et j'en ai des petits morceaux et j'attends, je dirais, un signal. Et souvent, ce signal, eh bien, c'est soit lorsque j'ouvre ma Bible et je tombe sur un passage qui a un rapport avec le message que j'ai ressenti, ou lorsqu'un frère ou une sœur prononce des mots et qui sont en rapport avec le message, ou des louanges parfois. Je dis, mince, dans cette louange, il y a eu le mot qui me touche. Alors, le hasard. On n'est pas là par hasard. Qu'est-ce que le hasard ? C'est quoi le hasard ? Je vais vous en donner des définitions. Le hasard, alors j'ai pris le dictionnaire comme d'habitude, parce que souvent on utilise des mots, mais on ne connaît pas le sens exact. Le hasard, c'est un événement imprévu, heureux ou malheureux. Bon déjà, si c'est heureux, c'est bien, si c'est malheureux, c'est pas très sympa. Quelques synonymes. Le hasard, c'est peut-être compris comme de la chance, de la fortune, comme une occasion. Le hasard, c'est l'aventure, n'importe où, n'importe comment. Alors, ça peut très bien ne pas être très réjouissant, ça. N'importe comment. Le verbe hasarder, c'est entreprendre en risquant d'échouer. Essayer avec témérité. Ça peut être de l'inconscience, hein. C'est tenter quelque chose en prenant des risques. Se hasarder, c'est ne pas prendre toutes les garanties pour réussir. C'est foncer, quoi, sans réfléchir. Hasardeux, c'est aléatoire. Aléatoire qui expose à un risque. Bah, dites donc, toutes ces définitions, ça ne me réjouit pas trop de s'en remettre au hasard. Aléatoire, qui repose sur un événement incertain, problématique. Oh là. Il y a une expression qui dit « par le plus grand des hasards ». Ça veut dire « d'une manière extraordinaire ». Par hasard, fortuitement, par un concours de circonstances extraordinaires, on revient sur l'extraordinaire. En dehors, extraordinaire, ça veut dire en dehors de l'usage ordinaire qui arrive rarement, qui étonne par sa bizarrerie. C'est un événement peu probable qui dépasse le niveau ordinaire de beaucoup. Extraordinaire, très grand, c'est remarquable. Alors moi, quand même, toutes ces définitions, ça, quand je les ai lues, je me dis, mince, si notre vie se base sur le hasard, c'est pas réjouissant. On en prend des risques. On en prend des risques. Alors moi, je me suis dit, Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Si le hasard existe, en fait, on ne peut pas le prévoir. C'est quelque chose qui est... On ne peut pas prévoir le hasard. Mais l'homme est contradictoire. L'homme est contradictoire parce que il y a une expression qui dit « à tout hasard ». Et la traduction de cette expression, c'est « en prévision d'un événement possible ». Ça ne va pas. Si on ne peut pas prévoir le hasard, il y a un problème là. S'il y a prévision, il n'y a pas hasard. Alors je sais que là, ce que je vous dis, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais ça a une raison, parce qu'on va aller plus loin. Il y a une autre définition du hasard. C'est la cause fictive des éléments imprévisibles, des événements imprévisibles, des événements considérés comme soumis à la seule loi des probabilités. Alors, j'ai l'impression d'être un prof, tiens là. C'est pas le cas. Hein. La loi des probabilités. Alors, ce mot, je l'ai entendu. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je ne savais pas. Je savais que c'était des suppositions, des calculs, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, j'ai regardé. Déjà, loi. Loi, c'est une règle obligatoire promulguée par l'autorité souveraine qui ordonne, permet, défend ou punit. L'autorité souveraine. Ah, ça m'a fait réfléchir, ça. La loi des probabilités. Probabilité, c'est les vraisemblances, ces vraisemblances, conceptions scientifiques. Ah, on y vient. Déterministes du hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui arrive comme ça, mais les scientifiques réussissent à déterminer le hasard. Bon sang, ils sont forts. Ensemble, c'est l'ensemble des règles permettant de déterminer le pourcentage des chances de réalisation d'un événement. En fait, le hasard, c'est égal à la probabilité. Ça se ressemble, puisque c'est ce que j'ai compris. Alors, pour un événement quelconque, c'est le rapport du nombre des cas favorables au nombre total des cas possibles, en supposant que tous les cas sont également possibles. Tout est possible, et on doit étudier ça, ils étudient ça, les scientifiques. Et comment ils calculent ça? Eh bien, il y a une cotation, je dirais, c'est de 0 à 1. Donc, 0, c'est ce qui est impossible. 1, c'est ce qui est la certitude. Ça ne peut pas être contesté. La certitude, c'est la qualité d'une affirmation qui a les plus grandes chances d'être conforme à la réalité. Non, pardon, c'est la probabilité, c'est la qualité d'une affirmation qui a les plus grandes chances d'être conforme à la réalité sans qu'on puisse en démontrer absolument la vérité. Ça, c'est une définition de scientifique. Alors, je vais couper court à tout. Je suis désolé pour tous ces mots, toutes ces phrases que j'ai prononcées, mais c'est pour vous montrer, pour vous expliquer qu'on utilise ce mot, mais ce mot, il a des conséquences. Moi, je vous affirme, Dieu existe, il est vivant, il est réel. Je vous l'affirme. Pour moi, la probabilité, elle est de 1. Et je dirais que je défie les scientifiques de me prouver qu'il y a une probabilité zéro que Dieu existe. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils auront toujours ce doute. Ce 0,00001. Et peut-être même plus. Qui fera qu'ils sont obligés. S'il n'y a pas la probabilité zéro, s'il y a le 0,0001, c'est que Dieu existe. Mais ça, ils ne veulent pas l'admettre. Et pour vous montrer un peu le côté aléatoire de tous ces calculs, je me souviens d'une émission de radio. C'était un jeu où les candidats devaient répondre à des questions. Bien sûr, chaque question faisait gagner de l'argent. Et à chaque question, de plus en plus difficile, bien sûr, les sommes s'additionnaient. Et ça pouvait représenter je crois que c'était plus de 100 millions. Et avant de mettre ce jeu en place, il y avait des personnes, des scientifiques, qui s'étaient penchés sur le problème et qui avaient fait le calcul des probabilités qu'il y ait un gagnant à cette somme extraordinaire, peu ordinaire à l'époque. Et donc les organisateurs s'étaient dit, s'il faut... ils avaient calculé, je crois que c'était près d'un siècle avant qu'une personne puisse répondre à toutes les questions et gagner la somme maximum. Donc les organisateurs s'étaient lancés dans ce jeu et malheureusement pour eux, il y a eu un gagnant très rapidement. Et ils se sont dit, c'est bon. Il y a un gagnant maintenant, donc ça va attirer du monde, c'est super. Mais on sait qu'il y a un gagnant, ça a été prouvé qu'il y aura un gagnant tous les 100 ans à peu près. Donc on est deux siècles tranquilles. Ben malheureusement pour eux, il y a eu un autre gagnant très rapidement. Parce que les scientifiques n'avaient pas pris en considération cette probabilité qu'il pouvait y avoir 2, 3, 4 gagnants à la suite. Et être après pendant des siècles sans qu'il y ait de gagnant. Voilà, c'est ça la science. C'est ça le hasard. Alors, je vais vous redonner mon témoignage. Vous le connaissez, je vais le faire plus bref. Je viens d'un milieu difficile, j'en ai témoigné dernièrement. Je me convertis à 15 ans. Je chemine un temps avec le Seigneur. Je m'en éloigne. Je savais qu'il était là, mais je m'éloignais, je le voyais de plus en plus loin. Et Jean-Robert et Yolande, un soir, dans mes bureaux, frappent à ma porte, à une heure où je ne devais pas être là. Je ne sais pas pourquoi elles sont passées là, mais c'était providentiel. Je viens, je les rencontre plusieurs fois. Et un soir, alors que je sortais de chez Jean-Robert et Yolande, Jean-Robert a eu cette phrase providentielle. Où en es-tu, toi, avec le Seigneur ? Cette simple phrase. Et cette phrase, je vais vous dire, ma rencontre à 15 ans avec le Seigneur a changé ma vie, parce qu'il y a plein de choses que j'ai vues mais que je n'ai pas faites. Il était toujours en train de me retenir. Mais cette phrase, elle a été providentielle pour moi. Où en es-tu, toi, avec le Seigneur ? Providentielle. Que signifie ce mot ? Qui arrive opportunément, qui relève de la providence opportune, qui arrive à propos, qui convient à la situation présente. La providence, qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est la providence ? On devrait regarder plus souvent les dictionnaires. Puissance suprême. Suprême qui est au-dessus de tout qui ne saurait être dépassé. Quand j'ai lu ça, quand ce mot m'est venu, parce que le mot hasard me gênait, quand ce mot m'est venu, qui est au-dessus, quand cette phrase m'est venue, qui est au-dessus de tout, qui ne saurait être dépassé. Puissance suprême, qui gouverne le monde en veillant sur lui. Dieu, la providence, c'est Dieu. C'est le dictionnaire qui le dit. Dieu qui gouverne la création, qui assure le bonheur, la protection, qui prévoit et qui pourvoit à. Waouh ! Je peux vous dire que quand j'ai lu ça, la providence. La providence. Pourquoi on utilise le mot hasard alors que tout est dans les mains de la providence? Alors, dans la Bible, j'ai cherché et j'ai trouvé 3 fois le mot hasard utilisé. 3 fois. La première fois que j'ai trouvé, c'est dans 1 Samuel. Chapitre 6, c'est dans le verset 9, mais on va lire les versets, des versets 7 à 12. Donc 1 Samuel 6, 7 à 12. Alors, je vais quand même rappeler, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et l'ont amenée dans leur territoire. Et les Philistins ont été touchés par une malédiction, notamment, ils ont des hémorroïdes. C'est dans le chapitre 5, ça, cette explication. Ils ont des hémorroïdes et ils se sentent coupables. Ils se disent, il y a quelque chose qui s'est passé, pourquoi on a ça? Donc ils cherchent une solution et voilà ce qu'ils pensent. Maintenant, faites prendre un char neuf, tout neuf, et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous lui apporter en sacrifice de culpabilité. Déjà là, ils se sentent coupables, hein. On le voit. Ils se sentent coupables d'avoir cette arche. Puis, vous la renverrez et elle partira. Vous verrez bien si elle monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappé d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. Par hasard. Ils utilisent ce mot. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char en enfermant les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les images de leurs hémorroïdes. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que l'on comprend dans ce passage? C'est que si les vaches vont tout droit, c'est l'Éternel, la Providence, qui a causé ce grand malheur. Ils ont fauté. Et on l'a vu, hein, on peut être puni. Pour pourquoi ils utilisent le mot hasard. À la fin du verset 9, parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont fauté et que c'est Dieu qui les maltraite. Pourquoi ils utilisent le mot hasard ? Ben moi, je pense que c'est pour se justifier, pour trouver une autre possibilité, pour s'aveugler. Le deuxième passage où le mot hasard est utilisé, c'est dans 1 Roi, le verset 22, le chapitre 22, pardon. Chapitre 22, les versets 29 à 35. Alors là, il est question de d'Achab, le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, Achab, a commis un crime. Ça, c'est dans le chapitre 21. Je ne vais pas vous le lire. Donc, il a commis un crime. Et là, il livre un combat. Alors, il nous est dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguise pour aller au combat. Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Le roi d'Israël avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est certainement le roi d'Israël. Ils se dirigèrent vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat appela un secours. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » En fait, le roi d'Israël a voulu ruser. Il a fait qu'un autre se déguise de façon à ce qu'il soit épargné. Alors, sur le verset 35, non, au verset 34, pardon. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Moi, tirer au hasard, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tirer au hasard, on ne tire pas au hasard. On tire au jugé. Parce que tirer au hasard, il a tiré sur ses troupes. Non, il a tiré vers l'ennemi. Mais il a tiré sans viser, cet homme. Il a tiré au jugé. Au jugé, c'est sans viser, je vous l'ai dit. Donc on peut comprendre. Un homme tira de l'arc au jugé, donc sans viser, et la providence frappa le roi d'Israël. La providence, on l'a dit, c'est Dieu. Le roi d'Israël a commis une faute. Il est puni. Alors moi, je vais vous dire, hasard, je ne crois plus en ce mot. Pour moi, je ne veux plus l'utiliser, je le bannis. Alors c'est vrai que parfois, il revient parce qu'on l'a tellement utilisé que bon, il est en nous. Moi, j'ai la certitude que ce mot, il a été inventé par les hommes. Il a été inventé par les hommes pour nier l'existence de Dieu, pour justifier ce qu'ils ne veulent pas admettre, reconnaître la présence, l'existence du Dieu créateur, celui qui tient tout dans ses mains. Or, je vais le répéter, je vais redire la phrase qu'a dit Lionel la semaine dernière, nous ne sommes pas là par hasard, mais nous sommes là par la providence. La providence, je rappelle la définition, puissance suprême qui est au-dessus de tout, qui ne saurait être dépassée, puissance suprême qui gouverne le monde en veillant sur lui, Dieu qui gouverne la création, qui assure le bonheur, la protection, qui prévoit et pourvoit à. Vous préférez le mot providence ou celui de hasard? Ah, ben moi aussi. Hein. Et puis je me dis que j'ai eu cette pensée, si j'utilise le mot hasard, en fait quelque part je renie Dieu. Je n'admets pas que c'est lui qui tient tout dans ses mains. Chaque fois que ce mot m'échappe, sauf si, comme Lionel l'a dit, on n'est pas là par hasard. On est là providentiellement, en quelque sorte. Ça veut dire ça, quand il dit ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on le trouvait trois fois dans la Bible. Alors, il existe peut-être plusieurs fois, mais moi, je ne l'ai trouvé que trois fois. Il est dans Luc. Dans Luc 10, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Là, on voit plusieurs choses. On voit qu'il y a un sacrificateur qui passe par hasard. En fait, il passe providentiellement. Il est là sur le chemin, il est sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Il détourne les yeux. Il ne veut pas voir cette personne qui a été malmenée. Et pourtant, il est là providentiellement. Il est là providentiellement. Le lévite de même. En fait, le seul qui réagit sainement, c'est le samaritain. C'est lui qui est là providentiellement, qui en prend conscience et qui fait ce qu'il a à faire. Alors moi, je vais vous poser une question. Je vais plutôt vous dire, comme le samaritain, nous aussi, nous passons dans le monde, providentiellement, pas par hasard. Et nous avons un rôle. Nous sommes là providentiellement. Alors j'ai relevé plusieurs passages dans la parole où l'on voit, je dirais, l'action de la providence. Le premier que j'ai relevé, il doit y en avoir d'autres, on pourrait même échanger là-dessus, en partager. Moïse, à 3 mois, il est mis dans un panier d'osier confié au fleuve, et il y a la fille de Pharaon qui le recueille, providentiellement. Le mot n'est pas utilisé. Mais ça, c'est la main de Dieu, c'est pas possible autrement. Moïse est banni d'Égypte. Il est banni d'Égypte Et on le retrouve à garder les moutons de son, les troupeaux de son beau-père. Et il y a le buisson ardent sur cette montagne. Et Moïse, il va vers ce buisson. C'est la providence qui a fait qu'il soit à cet endroit-là. Il était choisi. Ce n'était pas par hasard, excusez-moi de réemployer ce mot. Abraham, quand il doit sacrifier son fils Isaac, l'ange intervient, arrête son bras, et il y a un bélier qui a les cornes prises dans un buisson. Tiens, encore un buisson. Je n'avais pas fait le rapprochement. Le bélier, il n'y a pas d'autres animaux autour. Il y a ce bélier. Alors moi, quand je lis ça, et que je sais que tout est providentiel, tout est dans les mains du Seigneur quand on veut le suivre, le bélier, c'est la providence. David et Goliath, vous vous rendez compte ? On connaît tous l'histoire, mais il faut l'analyser en se disant que la providence intervient, Dieu intervient. C'est sûr, c'est certain. On ne peut pas le nier. C'est un enfant. Il est devant un géant. Goliath, il est harnaché, si je puis dire, de la tête aux pieds. Lisez bien. Un casque d'airain, une cuirasse d'airain, des jambières d'airain. On ne peut pas l'atteindre normalement. Et David, il se penche, il ramasse 5 pierres, il n'en utilise qu'une, qui vient frapper en plein front Goliath. Et Goliath tombe mort. Pas assommé, mort. David, au départ, il est envoyé pourquoi ? Pour apporter de la nourriture à ses frères. Non, il est là par la providence, par la main de Dieu. Un dernier, les apôtres. Quand Jésus marche sur le bord de, sur la plage, sur le bord de l'océan, de la mer, et qu'il fait signe aux apôtres, il ne s'est pas dit, oh tiens, lui, tiens, il est torse nu, je vais le prendre. Oh tiens, viens avec moi. Tiens, toi qui as les cheveux longs là, ou les cheveux courts, toi qui es petit, qui es grand. Non, c'est suivez-moi. Mais ça, c'est la providence. C'est pas de, il n'y a pas eu de hasard. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je ressentais quand je lisais ces passages. Rappelons-nous, la providence, c'est la puissance suprême. Alors, comme le Samaritain, nous avons un rôle, je l'ai dit. Alors, sans prétention, parce que nous ne sommes pas ces personnages que je vais... ces hommes que je vais citer, mais comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme les apôtres en ont eu un, nous avons un rôle. Nous avons un rôle. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire quel rôle vous avez. Moi, ce que je vais vous demander, ce que je me demande, ce que je cherche, c'est à me rapprocher du Seigneur, à lui poser la question, Seigneur, quel rôle tu m'as choisi ? Providentiellement, tu es intervenu pour moi parce que je suis ici. Quel rôle, toi, le Tout-Puissant, tu veux que je fasse ? Quel rôle ? Alors, je vais dire, je vais remercier la Providence qui a fait que 3 fois soit écrit le mot hasard dans la Bible. Car dans le cas contraire, s'il n'y avait pas eu ce mot, je ne serais pas là en train de vous donner ce message aujourd'hui. Et de vous dire que la providence, ça n'existe pas. C'est un mot inventé par l'homme. Excusez-moi, le hasard. Oh, pardon. Je ne veux plus prononcer ce mot, alors Le hasard est un mot inventé par l'homme. Merci, vous suivez bien. Hein. Super. Le hasard est un mot inventé par l'homme pour nier la providence. Alors je vais dire, la providence fait bien les choses. Amen. Bannissez le mot hasard de votre vocabulaire. Ou alors, si par habitude ou inadvertance, malencontreusement vous l'utilisez, vous précisez que non, pas le hasard, la providence. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et vous dire que vraiment, si on est là, c'est providentiellement.
Merci Marc. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas... Nous n'avons pas été créés par hasard. Non. Non, c'est vrai que nous avons un Dieu qui est le Dieu de vie. Et chacun qui soit en ce lieu, où qu'il soit, c'est Dieu, le Dieu de vie. Et nous avons tous reçu de sa part une grâce excellente. Déjà, le souffle de vie. J'aime bien, il y a un passage dans la parole qui dit « L'homme n'est pas capable de maîtriser son souffle parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous n'en aurons plus. » Moi, étant passé par cette maladie, je sais ce que c'est que de manquer de souffle, de voir mon frère Moïse à l'hôpital par moments, je vois aussi ce que c'est que de manquer de souffle. Nous ne pouvons pas maîtriser, mais c'est Dieu qui maîtrise toutes choses, si nous nous confions en lui. Oui. Alors c'est vrai que c'est souvent aussi une des choses, alors on parle du hasard, ou les jeux de chance, ou que sais-je. Nous avons une certitude solide en Jésus-Christ. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Amen. Moi je vais rendre gloire, Seigneur, je vais te louer, te remercier. Fais le ménage dans nos pensées, nos cœurs. Effectivement, peut-être que, effectivement, on utilise des mots pas à propos, ou des mots qu'on a pris l'habitude d'utiliser et qui contredisent ce que tu nous dis. Si tu as insisté là-dessus, Seigneur, c'est que tu avais quelque chose à révéler. Parce que la Bible dit, il ne peut pas sortir de la même bouche des paroles qui maudissent son frère et des paroles qui bénissent son frère. Nous ne pouvons être deux sources, ne peuvent pas jaillir de la même source. Non, nous que soyons conscients de t'être justement des mots que nous utilisons, de l'habitude que nous avons pris, des choses qui ne sont pas en accord avec toi, Seigneur. Je veux te louer et te remercier parce que tu es ce Dieu patient. Je veux te rendre toute la gloire, Père. Je te prie, dans le nom puissant de Jésus, de raccompagner nos frères, nos sœurs, de prendre soin d'eux. S'il y a des choses qui a percuté des cœurs, Seigneur, continue ton œuvre. Peut-être certains vont repartir avec des questions, dire « Ouais, bon, c'est bien beau, machin. » Mais qu'est-ce que tu voulais me dire, Seigneur ? Des fois, c'est en ruminant, en réfléchissant, en prenant du temps avec toi. Oula, ce mot est devenu compliqué de nos jours, prendre du temps avec toi. Nous sommes toujours occupés. De prendre du temps avec toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Père, je veux te louer et te remercier parce que c'est ton esprit qui œuvre dans les cœurs et les consciences. Et je veux bénir mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu as voulu leur parler. Tu as voulu me parler. Et je veux te rendre toute la gloire. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Amen. Je vous rappelle mes frères et sœurs qu'il est interdit de se rassembler à l'extérieur. Je sais, je me répète. Donc si vous voulez discuter, ça sera dans l'enceinte de l'église. Sinon, partez en paix dans l'amour de Christ. Amen. Et si certains veulent nous voir, nous sommes là pour vous. Bon dimanche.